Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Une semaine formidable pour revenir sur l'actualité sportive, en tout cas quelques-uns des faits marquants de l'actualité sportive de la semaine et du week-end. Bonjour à nos trois invités. Aujourd'hui, nous sommes avec Clément Muller, avec Ricardo Baroni et avec Daniel Cornail, qu'on a le plaisir de retrouver. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour deux sujets à l'ordre du jour aujourd'hui. Principalement, on va revenir sur le championnat du monde de MotoGP qui touche presque à sa fin. C'était l'avant-dernier Grand Prix ce week-end, le Grand Prix de Malaisie. Il s'est passé beaucoup de choses. Et puis, on parlera aussi du Tour de France 2025 déjà, parce que le profil a été dévoilé la semaine dernière et c'est un Tour de France assez exceptionnel qui se prépare avec beaucoup de difficultés, un certain nombre de pièges, on parlera de tout ça avec nos invités. On commence avec la MotoGP, Clément Muller, je le disais, donc Grand Prix de Malaisie ce week-end, un Grand Prix assez incroyable. Bagnaia a chuté, alors on sait que Francesco Bagnaia et Jorge Martin sont au coude à coude pour le championnat du monde. Avant cet avant-dernier Grand Prix, il y avait 17 points d'écart. Bagnaia a chuté dans la course sprint, il remporte le Grand Prix devant Jorge Martin. Mais la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé sur les trois premiers tours de ce Grand Prix? On a vu les deux pilotes au coude à coude risquer la chute l'un et l'autre, se repasser devant en permanence. On a eu trois tours de folie, véritablement. Qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de ces pilotes?
Alors, déjà, c'est les deux pilotes qui ont un niveau qui est très, très, très proche. Il y a Martin Bagnaia et le reste du peloton. Et c'est deux pilotes qui savent s'échapper. C'est-à-dire qu'en fin de compte... Souvent, ce qui se passe, c'est dès qu'il y en a un qui est devant, après, il arrive à s'échapper et à prendre un peu le... Mais avant ça, ça demande un peu de d'épuisement de son adversaire. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Et une grosse pression de l'un sur l'autre au fil des tours, au fil des secteurs. Et malheureusement, y a eu une petite erreur de Bagnaia qui est quasiment chirurgicale parce que... À l'œil nu, à la télé, on ne voit pas l'erreur exactement.
Mais... Ça, c'est sur la course sprint.
Oui, bien sûr.
Oui,
pour revenir sur la course sprint. Après, sur la race, c'est très bien comment ça s'est terminé aussi.
Mais sur la race, il y a eu quand même les trois premiers tours très, très intenses où Marquez a attaqué Bagnaia. Bagnaia a répondu. Ils ont eu trois tours où ils se sont touchés, où ils ont même failli tomber. Enfin, pourquoi ils ont pris de tels risques alors qu'ils jouent l'un et l'autre le championnat du monde?
Ils jouent le championnat du monde, mais en même temps, avec le nombre de points qu'ils ont d'écart, ils peuvent pas se permettre de... il faut gagner et il faut être l'un devant l'autre. En fin de compte, il faut prendre des points à l'autre. Donc, on a un Martin qui est en position de force parce qu'il débute le week-end avec 17 points d'avance. Et on a un Bagnaia où il lui reste que deux événements pour rattraper
17 le retard, ouais.
Du retard. Donc, ils n'ont pas 36 solutions l'un et l'autre. Donc, forcément, ça crée de la bagarre. Et de la bagarre à un niveau comme ça, forcément, c'est très, très, très impressionnant à la télé de voir ça, quoi.
Alors, 17 points d'écart entre les deux hommes avant le début du week-end. À la fin, finalement, il y en a 24 points d'écart. C'est-à-dire que même si Francesco Bagnaia a remporté le Grand Prix en raison de sa chute sur la course sprint, il perd 7 points sur Jorge Martin. Est-ce que, selon vous, le titre est joué ou pas encore?
Moi, j'ai envie de vous dire que non. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'avec les sprint race et les races, on peut avoir 37 points sur un week-end. Donc, oui...
Enfin, c'est mathématiquement, c'est encore possible.
Mathématiquement, c'est encore possible. Après, c'est encore une fois, c'est de la moto. On a vu Miller chuter et ne pas prendre le départ derrière. Quand tu marques zéro point et que l'autre gagne, parce que c'est ce qui, on est sur des personnes qui, s'il y en a un qui marque zéro, l'autre il marque souvent le maximum de points. On est sur ce niveau-là de combat. Donc, s'il y a chute, globalement, le titre est encore jouable.
Le dernier Grand Prix devait... Oui, Ricardo Baroni, parce que vous avez suivi ça très près, évidemment.
Oui, puisque Clément dit qu'il reste 37 points, c'est vrai. Mais il a deux jokers, Martin. C'est-à-dire 37 points, il faut qu'il en fasse aucun du week-end ou qu'il fasse plus loin que 2 ou 3e place, comme il l'a dit tout à l'heure. Jorge Martin et Bagnaia, ils sont au-dessus du lot. Donc, normalement, ça se joue entre les deux. Je dirais que Martin, il suffit d'assurer un des deux Grands Prix derrière Bagnaia et ça va être difficile qu'il perde le titre.
C'est-à-dire que s'il roule, j'allais dire, tranquillement, avec tous les guillemets qu'il faut quand on parle de MotoGP, bien évidemment, mais disons que s'il assure par rapport à son niveau, il suffit qu'il termine les deux courses pour être champion du monde.
C'est ça, c'est pour ça que le dernier Grand Prix, comme il expliquait Clément, le dernier Moto Grand Prix, là c'était vraiment à qui était le plus fort à l'intox pour essayer de faire perdre les nerfs à son adversaire. Maintenant, dans la situation où il est Jorge Martin, il a quand même beaucoup plus de chances de remporter le championnat du monde. Maintenant, il a raison, si on veut garder du suspense, c'est bien de le dire qu'il reste 37 points.
Il y en aura forcément un peu.
Plus, il faut citer qu'ils sont tous les deux sur même moto, donc ça va être compliqué que ça soit une erreur. Ça va être vraiment... quand je dis une erreur mécanique ou de pneus, ça va être une erreur de pilotage ou quelque chose comme ça. Mais personnellement, ça va être compliqué pour Bagnaia, d'après moi, d'être champion du monde.
Ça risque, effectivement, il part avec un handicap. Alors, oui, Clément Muller, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, d'autant plus qu'en fin de compte, on se concentre sur ce qui se passe entre Martin et Bagnaia, mais derrière, il y aura aussi, lors du dernier GP, la bataille pour la troisième place.
Marquez-Bastianini.
Il y aura aussi la bataille pour la cinquième place entre Acosta et...
Brad Binder,
je cherchais. Donc, c'est six pilotes qui vont être occupés par des duos, et donc ils vont pas surveiller ce qui se passe devant. Après, on a un niveau où on peut pas juste dire je vais assurer, il faut que je termine, parce que il faut terminer et terminer dans les points. Et oui, pour Martin, ça paraît facile d'assurer une deuxième place, mais
une troisième, parce que ça passe, même
troisième,
si
mais
troisième.
Ça passe aussi, mais il faut pas non plus que voilà, ça va pas être. Ça paraît facile, mais vu le niveau dans les 7-8 premières places, il ne faut pas faire d'erreur non plus.
Alors, justement, comment ils vont se comporter l'un et l'autre là, sur, il y a 15 jours, hein, avant le Grand Prix qui marquera la fin de la saison. Grand Prix, en plus, dans des conditions compliquées, devait avoir lieu à Valence. On sait ce qui s'est passé à Valence avec les dégâts causés par la pluie et les inondations. Le Grand Prix aura lieu à Barcelone, finalement. Ça reste en Espagne, mais ce n'est pas le même contexte. Est-ce que vous pensez que ça va jouer ces 15 jours? Est-ce qu'il va être compliqué à gérer pour les deux hommes?
Martin est à la maison. Bagnaia est dans une position plutôt faible où entre guillemets, il a plus rien à perdre, donc il va tenter le tout pour le tout et il va viser un week-end parfait comme il a su le faire. Faut pas oublier que Bagnaia, il est capable de remporter 37 points sur un week-end. Il l'a fait plusieurs fois. Martin, il l'a fait qu'une fois depuis le début de l'année. Oui, il y a 24 points d'écart, c'est énorme, mais moi je pense que ça va se resserrer. Ça va se resserrer sur le dernier Grand Prix.
Ricardo Baroni.
Moi, ce qui me surprend dans ce championnat du monde, c'est que c'est les sprints qui influencent énormément le résultat, puisque Bagnaia n'est pas à la hauteur, ou sinon il tombe, ou il est très fort, puisqu'il a déjà gagné 10 Grands Prix sur ce championnat du monde, et que s'il n'y avait pas les sprints, ben, il serait en tête. Donc il y a un petit souci au niveau de Bagnaia pour être compétitif pour les championnats du monde. Il faut qu'il arrive à... Donc ça va être compliqué de gagner les deux Grands Prix, mais qui sait.
Alors, puisqu'on parle MotoGP, on va quand même regarder un tout petit peu les choses un peu plus profondément que le titre qui se joue entre Jorge Martin et Francesco Bagnaia. Est-ce que Clément Muller, en début de saison, si on vous avait dit que Marc Marquez était en lice pour, pourquoi pas, une troisième place au général et remporter des Grands Prix, vous auriez dit, bah oui, c'est possible?
Ah oui, complètement. Complètement. Moi, il y a deux choses dont j'étais... même trois choses dont j'étais sûr au début. J'aurais pu mettre de l'argent là-dessus. C'était le retour de Marquez, avec l'une des meilleures motos du plateau. C'était le top 5 de Acosta.
Qui était un exploit, hein, quand même.
Qui est un exploit, pour un rookie, mais en même temps, on a eu un Marc Marquez qui, dès sa première année en MotoGP, était champion du monde. Donc,
Arrivé très souvent. Hein.
C'est pas arrivé très souvent, mais quand on a vu Acosta qui débarque en moto 3, qui gagne, il passe en moto 2, il gagne, on s'est dit, bon, on a quand même un bon client. Et j'étais aussi sûr que, malheureusement, nos amis français ne rentreraient pas dans le top 10.
Oui, ça, il fallait s'y attendre. Ouais.
Et donc, oui, c'est pas une surprise pour moi de voir Marquez ici.
Donc, Marquez revient au plus haut niveau. On rappelle, 8 fois champion du monde. Ces 3 dernières années, ça a été compliqué. Il a eu des blessures, il a enchaîné des opérations. Bref, il a pas eu le niveau qu'il avait. L'année prochaine, il revient comme coéquipier de Francesco Bagnaia chez la Ducati, équipe officielle. Ça va être un peu chaud entre les deux, non?
C'est mine de rien.
Parce que c'est deux caractères quand même.
Mais ça commence aussi à être des vieux pilotes. C'est-à-dire que c'est
Marquez,
des...
oui, Bagnaia, pas encore.
On a c'est des pilotes qui vont avoir 7-8 ans de plus que la nouvelle génération. Donc, ça va être deux grosses têtes, deux gros caractères, deux super pilotes. Mais je pense que ça va faire quand même moins d'étincelles que si ça avait été beaucoup plus tôt. s'ils avaient 22, 23 ans.
Ils vont quand même se battre, ils vont se battre en piste, il n'y aura pas de consigne d'équipe.
Non, il n'y a pas de consigne d'équipe. Il y a des consignes d'équipe que très tard, quand il y a surtout des trucs constructeurs. Si par exemple, il y a une Honda qui rentre et qui joue le titre, là c'est différent. Mais ça intervient très très tard, ces décisions d'équipe.
Ricardo Baroni.
Je suis impatient de voir ça avec
Marquez. On est tous impatients de voir ça.
Parce que cette année, Bagnaia, il est tombé deux fois. Est-ce que c'est à cause de lui ou pas? Deux fois à cause des frères Marquez. Donc ça fait déjà deux Grands Prix de perdu. Est-ce que l'année prochaine, il y a des contres qui devraient se régler? Ça, je me pose la question. Surtout qu'on a vu que Bastianini, qui était l'équipier de jusqu'au Bagnaia, prochain Grand Prix de Bagnaia, il se comporte très bien puisque... Il a gagné même un ou deux Grands Prix, je crois, un Grand Prix. Et donc, remplacé par Marquez, j'ai trouvé ça au niveau stratégique de l'équipe Ducati assez bizarre. Mais tant mieux si ça nous fait du spectacle. Ouais,
ceci dit, c'est Rory Martin aussi qui était pressenti chez Ducati. Hein. Ça aurait été Rory Martin et Bagnaia, on avait quasiment le même cas de figure. On avait deux leaders, quoi.
Ouais, mais il s'entend beaucoup mieux avec Rory Martin qu'avec Marquez, les frères Marquez. Donc, c'est vrai qu'ils se seront... Parce qu'il suffit de regarder les Grands Prix à l'arrivée quand ils analysent le Grand Prix. Il y a une certaine amitié entre ces deux compétiteurs pour être champion du monde qui fait quand même plaisir à voir.
Sur cette année prochaine, Clément Müller, on parlait des Français qui, cette année, étaient dans la douleur. On s'y attendait un petit peu. On voit qu'en fin de saison, Quartararo a repris un petit peu plus de performance avec sa Yamaha, qui est une moto en pleine évolution. Est-ce que vous pensez que l'année prochaine, alors sans pouvoir forcément prétendre au titre de champion du monde, parce que ce serait peut-être beaucoup, mais la possibilité pour Fabio Quartararo de renouer à la victoire, elle est possible?
Je pense que non. Je pense que c'est tôt.
Mettre de l'argent aussi.
Je pourrais mettre de l'argent, ouais. Je pense que... En fait, Yamaha, ils ont pris, pas un wagon de retard, ils ont pris un train de retard sur ce qui se passe chez Ducati, chez Aprilia, chez KTM. Et c'est pas qu'une histoire de moto, c'est aussi une histoire d'équipe. Enfin, 3-4 fois tombé en panne d'essence, la Honda qui casse 4 moteurs.
Ça, c'est Zarco. Hein.
Ça, c'est Zarco, mais pour parler des Français de manière générale, Johan Mir, qui était champion du monde en 2020, qui aujourd'hui, après une saison complète, à moins de points au total que ce qu'il y a d'écart entre le premier et le deuxième. C'est-à-dire que Johan Mir a marqué 21 points sur toute la saison. Donc on est sur des motos, et la Yamaha et la Honda, qui ne sont pas compétitives et qui, du jour au lendemain, ne vont pas le devenir. Mmh. C'est peut-être, ils vont peut-être approcher, en insistant, une 7, une 8e place, mais on est encore super loin de ce qui se passe devant. Hein.
Ricardo Baroni, vous partagez...
Ce que je souhaiterais demander à Clément, c'est il y a quelques années, c'était les Japonais qui maîtrisaient la MotoGP. Là, on voit que les Japonais sont en difficulté. Ce qui me surprend, c'est que ce n'est pas que Yamaha ou que Honda, c'est les deux plus gros constructeurs japonais qui sont en difficulté par rapport aux Européens, mais pas qu'une équipe européenne. Ils parlaient KTM, Aprilia, etc. Est-ce qu'il y a une explication à cela?
Alors... Pour parler de... Je vais faire deux groupes de réponses. Le sujet Ducati, c'est en fin de compte, Ducati a été un peu la bête noire du MotoGP pendant des années où on lui a cassé du sucre sur le dos pendant des années. Et donc, ils ont mis en place un très, très, très gros budget recherche et développement, une soufflerie, une unité spéciale au sein de Ducati pour développer une moto. Et ils n'ont jamais arrêté de travailler. Pendant ces années-là, Yamaha, Honda gagnaient tout. Donc, ils se sont un peu reposés sur leur laurier. Pour les autres marques, notamment KTM, GasGas, le groupe KTM, c'est une nouvelle marque qui arrive avec du sang neuf et on est sur 100% de développement. C'est que c'est depuis que la moto est rentrée, on développe. Ça peut être que positif. On n'atteint pas un niveau où on stagne. Aprilia, c'est encore un autre sujet. Aprilia, c'est le travail d'un pilote qui est Espargaro.
Alessio
Espargaro, qui bosse sur la même moto depuis 20 ans.
Et qui va devenir potentiellement pilote d'essai.
Pilote d'essai. Oui. Donc, c'est trois cas de figure différents. C'est trois marques qui ont bossé quand les autres... Je ne veux pas dire qu'ils ne bossaient pas, ce n'est pas vrai, mais c'est qu'ils étaient leaders et personne ne les inquiétait. Donc, ils ont mis l'argent ailleurs. Ils ont mis l'argent dans les rémunérations des pilotes, dans la communication, mais moins sur la recherche et le développement, alors que les autres marques étaient là-dedans.
Donc il y a des questions de stratégie sur le long terme.
Oui, bien sûr.
Mais est-ce que vous pensez que les marques japonaises, que ce soit Honda ou Yamaha, vont pouvoir faire une partie de leur retard? Parce qu'elles ont compris quand même ce qui s'était passé.
Ils vont rebondir, bien sûr. Déjà, Yamaha, qui reste la dernière moto en 4 cylindres en ligne, il y a un moment, il faut se poser des questions. Les motos qui marchent le mieux, c'est des motos avec des moteurs en V. Alors, avec ça va changer, parce que les réglementations changent aussi, mais ça va être tard.
J'en reviens sur les rookies, c'est-à-dire ceux qui font leur première saison dans la catégorie. Vous avez souligné ce qu'a fait Pedro Acosta cette année, hein, qui a une belle trajectoire. Est-ce que vous pensez, je pense notamment à Ayogura, qui a été titré sur la Moto 2 pour sa première saison, lui aussi, est-ce que vous pensez que c'est des pilotes qui vont arriver à se mettre très très vite en route pour la prochaine saison?
Je pense que Acosta, c'est un extraterrestre. Je pense que Ayogura fera pas la même chose. Je pense que c'est pas comparable. J'ai du mal à l'imaginer aussi incisif tout de suite. C'est une vision très personnelle. Je pense pas que l'année prochaine.
C'est pour ça qu'on vous pose la question.
Ouais, non, je pense vraiment pas. Je pense que ça va être quelqu'un qui va se batailler entre les 15 premières places, 10-15 premières places. On n'est pas sur un Acosta.
Et comment vous voyez l'avenir de Rory Martin, qui pourrait être sacré champion du monde cette année? Probablement, même si encore mathématiquement une chance que ce soit Bagnaia qui va rétrograder finalement, lui, en conduisant une moto dont on ne sait pas trop ce qu'elle vaut, a priori chez Aprilia. Hein.
Moi, je suis confiant. Je suis confiant de Martin avec Aprilia. On a enterré pendant des années les motos de Tech 3 avec notamment la Gaz-Gaz, alors qu'on voit Acosta qui est cinquième aujourd'hui avec une moto Tech 3. Je pense qu'il y a des pilotes qui travaillent mieux que d'autres sur les motos, et je pense que Rory Martin en fait partie. Et l'année prochaine, sur une Aprilia, je pense qu'il faudra quand même, pour la première fois dans l'histoire du MotoGP, surveiller le podium avec une Aprilia, quoi.
Allez, on se mouille un peu pour terminer ce chapitre MotoGP. Rory Martin, champion du monde, oui ou non?
Je vais vous dire non. Parce que
carrément.
J'ai envie de faire criser les gens derrière leur radio. Et non, mais mathématiquement, ça paraît compliqué, mais c'est pour qu'on garde le spectacle. D'accord. Jusqu'au bout. C'est uniquement pour le spectacle. J'adore
Ricardo
le spectacle.
Baroni.
Toute logique, Rory Martin. Mais bien sûr que ça me ferait plaisir, vainqueur.
Maintenant, oui, parce qu'il y a une vieille rivalité quand même entre l'école italienne et l'école espagnole. Hein. Ça fait un moment que ça dure, cette affaire.
Mais si on se rappelle un petit peu, l'année dernière, il est tombé, Bagnaia, et on pensait qu'il allait être arrêté pendant des mois parce qu'il a fait une chute vraiment incroyable. Et au bout de quelques semaines, il était déjà là. Je pense que la chance, elle a été l'année dernière. Cette année, ça va être un petit peu compliqué. Maintenant, à ce niveau-là, c'est peut-être plus de la chance. Mais je veux dire, ouais. L'italien dirait vive Bagnaia, mais la raison
dirait pour Martin. On sent bien que vous êtes tiraillé. On ne vous a pas entendu, Daniel Corneille, sur la MotoGP.
J'ai pas été spécialiste. Je vois l'italien qui voudrait que ça soit une Ducati, bien sûr. Hein.
ça sera une Ducati, c'est sûr.
Oui, mais je sais
bien. Il y a de fortes chances, en plus. Je ne sais pas laquelle, mais il y a de fortes chances. Il y a trois écuries équipées avec les motos Ducati. Hein. Pramac, Gresini et Ducati, l'équipe officielle.
Non, mais c'est vrai que la GP, ça nous offre, la MotoGP, c'est un spectacle incroyable et on ne peut qu'être scotché devant la télé lorsque ça se déroule. La Formule 1, c'est souvent un peu ennuyeux. Par contre, la MotoGP, il se passe des choses toutes les secondes. Non, c'est magnifique.
Ça bouge tout le temps et c'est des grands prix souvent denses puisque ça dure entre 50 minutes et une heure maximum. Donc voilà, c'est physiquement.
Je voulais dire 4 écuries.
Il m'en manque une.
La team VR46.
De Valentino Rossi.
De Valentino.
Et bien sûr, voilà.
Ça fait 8 pilotes Ducati.
Ça fait 8 pilotes Ducati qui n'ont pas trop marché cette année. Hein.
Non, juste les 6 premières places.
Oui, c'est ça. Alors, à propos de spectacle formidable, tiens, on va parler d'une autre épreuve grandiose, c'est le Tour de France cycliste. Ça va un peu moins vite, mais ça donne aussi des belles images. Daniel Corneille, on va en parler avec vous, avec Ricardo et aussi évidemment avec Clément Muller. On va parler du Tour de France parce qu'on en connaît le programme de l'édition 2025. Alors évidemment, c'est un peu tôt pour en parler, mais ceci dit, on a un parcours 2025 et un tracé qui est très original, avec des choses qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel Corneille, de ce que vous avez compris de ce parcours 2025?
Le parcours est très sélectif, extrêmement difficile. Donc, je voudrais dire que, contrairement à la MotoGP, le grandissime favori, c'est Pogacar. Et je vois mal quelqu'un lui disputer le leadership, sauf peut-être Vingegaard, ou Remco Evenepoel, mais qui marche un peu moins bien dans la montagne et qui aura du mal quand même, je pense, à tirer son épingle du jeu pour gagner le Tour de France.
Mais alors, sur ce Tour de France, on peut le découper en plusieurs tranches, en quelque sorte. La première tranche, c'est la première semaine. Ça va être une étape, on l'a dit, pour puncher. C'est pas du tout la France plate du Nord. Hein. Ça monte, ça descend en permanence. Il y a des côtes. Voilà, ça va être une première semaine très, très animée, qui va être très intéressante.
Bien évidemment, parce que les baroudeurs, c'est leur unique chance de pouvoir faire une place au classement général final, c'est de prendre de l'avance dans les étapes dites de transition, si l'on veut dire. Mais il y a quand même des côtes, hein. On en parlait avec Ricardo, le mur de Bretagne, etc., etc. Il y a des côtes avec des 15%, là vous faites exploser beaucoup de coureurs. Les gars ne vont pas gagner le tour dans les 10 premières étapes, mais certains vont le perdre, ça c'est sûr.
C'est ce qu'on a l'habitude de dire, mais ça se vérifie chaque année.
Ce que l'on veut, c'est de voir un beau spectacle, des coureurs qui se livrent à fond comme ces dernières années, et que Pogacar soit un petit peu chatouillé par ses plus proches adversaires.
Ricardo Baroni.
Je pense que la première semaine, ça va être très très important pour les équipes, pour protéger leurs leaders qui veulent gagner le Tour de France. Et là, il va y avoir des stratégies au niveau des équipes pour éviter les risques que peuvent prendre leurs leaders, comme il y a eu dans certains Tours de France où il y a eu des chutes dès la première semaine, où on s'est retrouvé sans Roglic ou sans Froome. Donc je pense que la première semaine, au niveau des équipes, ça va être très très compliqué. Et après, c'est vrai que la première semaine, de dire que sprinter, il n'y a que la première étape où il y a vraiment un pur sprinter qui
peut Lille,
prendre
hein,
le maillot.
Autour de Lille,
tout à fait,
c'est la première
étape. Donc, après, c'est compliqué puisque la deuxième étape, il y a déjà 2500 mètres de dénivelé. Donc là, on peut dire déjà qu'il y a de fortes chances que le maillot jaune change d'épaule. Maintenant, l'année passée, on a eu de la chance. Hein. Pas l'année passée, cette année, on a eu de la chance. Deux vainqueurs français, les deux premières étapes, avec un maillot jaune. Qui sait ? Avec une échappée donc de Romain Bardet qui a porté ce maillot jaune. Donc j'espère que la première semaine nous laisse aussi quand même quelques surprises et qui donne envie de voir la suite.
Donc la suite, ça va être quand même, pour faire bref, hein, on ne va pas tout détailler, mais la suite, c'est beaucoup de montagnes avec un dénivelé qui fait quasiment peur, hein, parce qu'il y a énormément d'étapes. Je crois qu'il y a une étape avec plus de 3000 mètres de dénivelé sur une seule étape. Il y aura le Ventoux, il y aura le col de la Lauze. C'est vraiment un tour pour les grimpeurs ?
Ben oui, puisque... quand vous m'avez invité pour cette émission, j'ai contacté le manager.
Ouais, vous avez des infos sur Pogacar, oui.
Le manager de Tadej Pogacar, qui s'appelle Alex Carrera, qui m'a écrit en me disant que le problème sur ce Tour de France, c'est les transferts, hein, 3000 km de transfert. C'est le dénivelé qui est incroyable, hein, 51 000 mètres de dénivelé, c'est énorme pour un tour comme ça. Donc évidemment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de l'intox. Hein. Pour lui, son favori,
c'est
Vingegaard, exactement. C'est Vingegaard. C'est vrai que c'est très montagneux. Et en montagne, Vingegaard se défend plus que, on va dire, que Tadej Pogacar. En plus, ça va laisser du temps à Vingegaard quand il arrive, puisqu'il n'y a pas de grandes montagnes très difficiles d'entrée. Je pense qu'il a raison, puisque c'est pas le seul à dire que ce Tour de France est quand même très visé pour Vingegaard.
Alors, peut-être que je me trompe, Daniel Cornaille, mais il y a quelques années, on disait que le Tour de France était promis aux coureurs les plus complets. Hein, on se souvient évidemment des grands coureurs qui ont marqué l'histoire du Tour. Aujourd'hui, est-ce que le Tour de France est réservé aux grimpeurs ?
Oui, il faut être grimpeur pour gagner un Tour de France.
Je sais, Pogacar, il grimpe et il gagne les contre-la-montre aussi. Hein.
Oui, c'est ça. Ce sont des coureurs extrêmement complets. Ceci dit, le cyclisme, c'est pas exact tous les jours. Hein. Il suffit qu'une échappée prenne 10 ou 15 minutes dans une étape de transition et que pour revoir le vainqueur, il faut le lâcher.
Oui.
Ça, c'est souvent difficile.
Et puis, il y a une saison à préparer. On a vu que l'année dernière, des chutes avaient compromis un petit peu le classement général.
Oui,
enfin,
c'est un sport extrêmement dangereux. Et les chutes, effectivement, peuvent décimer un peloton et mettre hors d'état de nuire un des favoris ou même plusieurs favoris, comme ça s'est produit cette année, effectivement.
Alors,
donc,
ouais.
Il faut beaucoup de choses. Il faut de la réussite. Il faut marcher à ce moment-là parce que Pogacar, il va peut-être faire une saison 2025 moins belle que 2024. Il était au-dessus du lot. Mais ça ne dure pas toujours très longtemps. Donc Vingegaard a ses chances et puis d'autres qui peuvent se révéler. Mais bon, des gars qui vont venir comme ça gagner le Tour de France, ça n'est pas possible. On a cité les principaux et ça va vraisemblablement être un de ces coureurs qui va le remporter.
Alors, on s'arrête quand même un tout petit peu, parce que vous avez cité son nom, Ricardo Baroni, sur Remco Evenepoel, hein, qui est quand même le coureur qui aura marqué aussi la saison 2024, notamment parce qu'il y a eu les Jeux Olympiques et qu'il a été flamboyant sur ces Jeux Olympiques. Sur les grands tours, il a brillé sur un Tour d'Espagne, me semble-t-il.
C'est ça, il a gagné un Tour d'Espagne, voilà, déjà.
Donc, il est capable de gagner un grand tour, quand même.
Il a fait deux tours d'Italie où il a abandonné une fois pour du Covid et une fois, il n'était pas... Une chute. Donc... C'est vrai que lui, au niveau contre-la-montre, c'est, je pense, le meilleur mondial, hein, puisqu'il est champion du monde du contre-la-montre et il est champion olympique. Mais je veux dire, comme disait Daniel, il faut être d'abord grimpeur et après fort contre-la-montre. L'exemple, c'est Froome aussi, hein, où il a fait plusieurs Tours de France et où il se défendait très très bien contre-la-montre. Tour de France l'année dernière, vainqueur final, Tadej Pogacar qui gagne donc contre la montre. L'année précédente, Vingegaard qui gagne un contre la montre et qui gagne le Tour de France. Donc c'est vrai qu'il faut être très complet. Et maintenant, il y a de telles équipes autour des leaders que les échappées bidons ou ce genre de choses, comme il y a eu une année avec Iapucci qui avait je ne sais combien de minutes d'avance sur Lemon. ça va être très compliqué pour que ça se produise. Quoi. Oui. Ça va être... Donc ça va se jouer à la jambe, comme on dit. Et Remco, c'est vrai que je pense que le futur aussi est proche de Remco le jour où il s'améliorera en montagne. Le problème, c'est quand on s'améliore en montagne, souvent on perd au niveau de la performance contre la montre. C'est clair que ce n'est pas Philippe Auguin qui est un super chronoman qui va gagner le Tour de France ou le Tour d'Italie. Donc il faut être complet, quoi.
Daniel Cornaille.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec Ricardo. Il faut grimper. Après, il faut avoir les autres atouts dans son jeu.
Alors justement, à propos d'autres atouts, vous qui connaissez bien le cyclisme, quand une équipe découvre aussi le profil du Tour de France, qui reste quand même l'épreuve la plus emblématique dans une saison et la plus courue de toutes les équipes, est-ce qu'ils s'y préparent déjà dès le début de saison avec pour objectif le Tour de France, même s'il peut y avoir des objectifs intermédiaires, le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne, mais est-ce qu'on construit une équipe, on commence à se préparer en vue du Tour de France?
Oui, si vous avez un leader qui peut gagner le Tour de France, vous mettez le paquet sur le Tour de France. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a les retombées les plus importantes à l'échelon mondial. Donc, une équipe qui investit des centaines de millions ne peut pas laisser le Tour de France de côté s'ils ont un leader capable de le gagner.
Ricardo?
Ils ne le découvrent pas le jour de la présentation. Hein. Plus, ils ont des infos à l'avance pour l'avoir vécu et avoir connu certaines informations à l'avance. Mais c'est très bien ce sujet. Par exemple, Tadej Pogacar n'est pas trop apprécié en Italie puisqu'il y a beaucoup de sponsors qui voudraient se lancer dans le cyclisme. Mais que quand il y a des athlètes de ce niveau sur un Tour de France, la communication est tellement importante qu'on ne parle plus tellement des autres partenaires, des autres sponsors. Donc, ça crée aussi certains problèmes. C'est pour ça qu'il y a de grosses équipes maintenant où des coureurs dans ces équipes, ils pourraient être leaders dans n'importe quelle équipe. Mais il y a un tel investissement financier maintenant dans le vélo qu'il n'y avait pas avant et qu'on pouvait avoir plusieurs équipes qui pouvaient défendre pour le Tour de France. Maintenant, les investissements sont tellement importants qu'il n'y a que 3-4 équipes qui peuvent gagner le Tour de France.
Alors, on a parlé des potentiels vainqueurs de cette Grande Boucle 2025. Il faut être prudent parce que la saison n'a pas encore commencé. Il peut se passer beaucoup de choses d'ici là. Mais en gros, il y en a trois. C'est Pogacar, Vingegaard et Remco Evenepoel dans une moindre mesure. Que penser des putchers, de ces cyclistes qui font aussi le bonheur des saisons? On pense évidemment à Mathieu Van Der Poel, on pense à Wout van Aert, etc. C'est des coureurs qui ont quand même des ambitions aussi, même sur un Tour de France, parce que s'ils savent qu'ils ne le gagneront pas, ils veulent se montrer, ils veulent montrer de quoi ils sont capables. Comment ils se positionnent en disant moi je ne le gagnerai pas, ça monte trop, va se dire à Mathieu Van Der Poel?
Oui, vous avez cité Van Der Poel et Wout van Aert, c'est exactement ça. Ce sont des garçons qui n'ont aucune chance de gagner le Tour.
Vraiment? Même si on bâtit une équipe
Non, ils ne sont pas assez bons grimpeurs. Par contre, gagner des étapes, de nombreuses étapes, ça c'est possible. Surtout des étapes qui nous réservent avec des murs... Mur de Bretagne sur des petites distances, ils sont capables de les passer en force. Et ce sont des garçons, il n'y a pas que ça, il y a des garçons chez les Français aussi, des petits jeunes qui montent, comme Romain Grégoire, par exemple.
On va en parler des Français après, oui.
Il y a de très bons coureurs chez nous, mais pour gagner le Tour de France, on n'en a aucun. Actuellement, je pense que Ricardo sera d'accord avec moi. On a des coureurs pour faire peut-être le top 10 avec David Gaudu, par exemple, ou d'autres qui vont se révéler. Mais
oui, au-delà,
sur le podium, ça me paraît vraiment difficile.
Ricardo Baroni.
Pourtant, David Gaudu, une année, il a fait quatrième. Hein. Donc, oui, on espère mais c'est pas le podium. Toujours. Et il a fait un super Tour d'Espagne. Hein. Là, dernièrement, on l'avait vu sur le Tour d'Espagne. Il a eu un super résultat. La dernière semaine, il était très performant. Il rivalisait avec les meilleurs. Concernant Van der Poel et le mur de Bretagne, j'ai un super souvenir de Van der Poel dans le mur de Bretagne. Le problème, c'est que d'après les infos que j'ai pu lire, il n'a pas l'intention de faire le Tour de France. Donc c'est un peu dommage parce que lui, toujours présent pour faire du spectacle et ça fait toujours plaisir. Mais je reviens sur les Français. L'année dernière, on a eu du spectacle sur les deux premières étapes hein, avec Romain Bardet et avec, comment il s'appelle, l'autre Vauclin, je crois.
Kevin Vauclin, oui.
Kevin Vauclin, voilà, Kevin Vauclin. Donc, qui sait, on va peut-être avoir Français. Puis, il y a un petit Français que moi, je suis content de suivre et que je le suis depuis quelques temps, c'est Lenny Martinez, très jeune, très maigre et qui grimpe vraiment quelque chose de fantastique. Et donc, qui sait, sur un Tour de France aussi montagneux avec 51 000 mètres de dénivelé, qu'il soit performant dans la haute montagne.
Oui, mais moi, rafraîchissez-moi la mémoire parce que j'ai plus son nom en tête. Il y avait quelques années, un coureur français, pur grimpeur, de Marseille, je crois, qu'on avait vu se révéler sur les pentes et grimper très vite, mais au classement général, il était très loin parce qu'il fait.
C'est pas Virenque quand même.
Non, c'était après Richard Virenque. J'ai oublié son nom, il faudrait que je recherche.
C'est un Ribeiro.
Oui, Ribeiro.
Oui, qui était maillot à poids du Tour de France et qu'après on n'en a plus entendu parler.
Oui, pourtant c'est un pur grimpeur, mais voilà, au classement général, ces gens-là, ils ne performent pas.
Alors concernant Lenny Martinez. Il est parti dans une autre équipe, une équipe étrangère. Il a quitté l'équipe française, la Française des Jeux, qui l'a fait grandir. Il est parti chez Bahreïn, qui déjà, l'infrastructure d'une équipe comme ça, c'est déjà autre chose. Donc j'y crois, parce que je pense que je n'ai rien contre les équipes françaises, mais on se rend compte que les coureurs français, quand ils vont dans des équipes étrangères comme Romain Bardet, je ne sais pas s'ils sont plus stimulés ou une autre préparation, mais on a des résultats. Et moi, j'espère beaucoup après Lenny Martinez.
On retient bien votre pronostic. Non, l'importance des équipes.
Lenny Martinez
l'importance
aussi.
Des équipes, Daniel Cornaille, c'est capital. Hein,
bah oui, c'est capital. Ça. Mais enfin, il faut que le garçon marche aussi. Le petit Martinez, c'est le contre-la-montre qui sera son point faible, on va dire, parce qu'il n'a quand même pas une musculature pour tirer de gros braquets.
Sauf que là, il y a un des deux contre-la-montre, c'est de la montée pure.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Il risque, lui, d'être le meilleur Français. C'est pas impossible. Mais de toute façon, on est tout à fait d'accord, je pense, avec Ricardo. Je ne pense pas qu'un garçon de France sera dans les 10 premiers. Et je le rejoins aussi sur l'histoire de partir dans une équipe étrangère où la rigueur est beaucoup plus forte que dans les équipes françaises. Et on voit, il progresse toujours beaucoup plus ailleurs que chez nous.
Mmh. Ricardo.
Concernant Lenny Martinez, il ne faut pas oublier que l'année dernière, sur la Vuelta, il a porté le maillot de leader pendant plusieurs jours. Donc, il a déjà cette expérience d'être leader et d'être devant de la scène pour gérer ce stress qu'on peut avoir sur ce genre de compétition.
J'allais dire, c'est un garçon qui gère très bien la pression. Il reste décontracté en toutes circonstances. Et ça, c'est très important sur 21 jours. De pouvoir être interviewé après les étapes et autres et continuer à marcher parce que justement il ne se fait pas trop de soucis. Le soir il dort.
Oui, c'est ça, voilà. Qui psychote un peu.
Hein. Oui, oui.
Ouais. Il se refond la course de la journée.
Il prend tout ça un peu pas à la rigolade, mais enfin il est détendu. Et ça aide beaucoup sur 3 semaines.
Bon, mais on a hâte d'y être hein, sur ce Tour de France 2025. Avant, il y a toute une saison qui va se dérouler. On aura quelques indications. Ça va moins vite que la MotoGP, donc ça ne vous intéresse pas, vous, le Tour de France?
Non, pas du tout. Franchement, je bois leurs paroles. J'adore les... Enfin, quand on a de la chance d'avoir des passionnés, c'est... je bois les paroles, donc je n'ai rien à rajouter.
On peut dire le contraire au sujet de MotoGP aussi.
Oui, oui.
Alors, aussi j'avais une question, peut-être, l'âge de réussite d'un coureur cycliste.
27 ans.
27 ans.
Ça, c'est quoi? C'est l'âge médian?
C'est souvent là où ils sont à l'apogée de leur carrière. Ricardo, t'es d'accord?
Tadej Pogacar, 24 ans, 2 Tours de France.
Oui, mais ça fait peur, justement.
Maintenant, ils sont de plus en plus jeunes.
De plus en plus jeunes, ok.
Voilà, c'est ça le souci.
Mais néanmoins, ils ont l'expérience à 27 ans, on va dire.
Et maintenant, ils sautent même une catégorie. Ils passent de junior à professionnel directement pour justement... être pris déjà au niveau des entraînements et tout. Il y a une équipe qui s'est lancée à fond dans ce projet avec les jeunes, c'est l'équipe Bora, soutenue par Red Bull, où ils engagent beaucoup d'étrangers jeunes pour essayer de les lancer dans le cyclisme.
J'ai encore une question avant de terminer, parce qu'on a évoqué son nom, mais on n'a pas trop développé. Puis moi, c'est un coureur que j'adore, c'est Wout van Aert. On a l'impression que ce coureur n'a pas jamais vraiment trouvé sa place sur le Tour de France. On l'a vu dans certaines étapes de montagne quand même réussir.
Il a fait l'équipier justement pour les meilleurs qui pouvaient gagner le Tour de France. Et cette année, il a eu une malchance incroyable.
Il
revenait vraiment au sommet, parce que c'est une véritable moto GP, peut-être, sur un vélo.
C'est une mobilette.
Il a eu encore des problèmes de chute. Il a eu une malchance, mais je suis persuadé qu'en 2025, il va retrouver son niveau et il va gagner énormément de courses.
Notamment sur la première semaine, potentiellement.
En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite, parce que c'est un beau coureur.
Ricardo. En plus, Wout van Aert est très agréable pour le public. Il est un coureur très simple, très convivial, on va dire, et qui en plus au niveau des interviews nous fait toujours des interviews en français, ce qui est agréable. Mais quand même, il faut pas oublier que cette année, c'est vrai, mais l'année dernière, avec le maillot jaune sur les épaules, il a gagné des étapes où il est arrivé tout seul, il a aidé Vingegaard à gagner le Tour de France. Je pense qu'on va le revoir et ça nous fera plaisir de le revoir.
Ouais, c'est un coureur extrêmement sympathique, effectivement. Ouais.
C'est l'unique coureur que je connaisse qui a signé un contrat à vie avec une équipe. Ça ne s'était jamais fait jusqu'à maintenant. Il a un contrat à vie avec son équipe pour être image, tout ce genre de choses.
Et on imagine qu'un leader rêve d'avoir un coéquipier comme Wout van Aert dans son équipe, parce que vraiment...
Et c'est une belle personne en plus, comme le disait Ricardo, et tout le monde l'aime en Belgique et ailleurs.
Allez, on suivra ce Tour de France 2025. Il faudra attendre le mois de janvier, de mois de juillet hein, quand même. D'ici là, on aura repris une autre saison de MotoGP. Il y aura eu plein de choses à dire d'autre. On va terminer avec vos coups de cœur, si vous en avez, de ces jours passés. Il y en a certains qui ne sont pas venus sur ce plateau depuis quelques temps, qui ont des coups de cœur un peu plus anciens, n'est-ce pas, Clément Muller?
Oui, je vais en profiter pour saluer tous les Calédoniens qui étaient sur la Diagonale des Fous, donc le Grand Raid de La Réunion. Et notamment, alors il y a Leslie Novicki qui remporte chez les femmes le Trail de Bourbon sur 110 km. Et je pense à Jonathan Nicole aussi qui part très longtemps dans les 600e place sur 2000 et qui termine 61e au général. Voilà. Et
donc,
résultats.
Ça laisse apprécier aussi le niveau des trails en Nouvelle-Calédonie, du coup.
Ah, il y a un très très bon niveau. Après, il y a aussi Aurore qui a été finisheuse sur un peu plus de 60 heures. Donc, ça aussi, c'est des performances qu'il ne faut pas oublier de saluer, parce que 60 heures sur un circuit en montagne comme ça, c'est compliqué. J'adore suivre les exploits des Calédoniens à l'étranger, ça donne envie.
Et bien voilà, on leur rend hommage donc aux trailers calédoniens qui ont brillé sur la Diagonale des Fous et les trails de l'île de La Réunion. Daniel Cornaille, vous avez bien un petit coup de cœur quand même.
Avant l'émission, les deux jeunes qui ont participé au championnat de France sur piste, hein, Louis Chavitz qui a obtenu la médaille de bronze, et aussi Hervé Ganet qui
Hervé Salin.
Du tonnerre aussi.
Hervé Salin,
Ganet est tellement présent dans ma tête. Hervé Salin. Qui est vraiment un coureur d'avenir aussi, et j'espère qu'ils confirmeront cette belle prestation dans les années qui viennent.
C'est d'autant plus remarquable qu'on sait qu'aujourd'hui, pour s'entraîner sur la piste,
ça devient difficile en Nouvelle-Calédonie, effectivement. Mais bon, il faut avoir le moral et ces garçons et cette jeune fille, et j'espère que ça va se concrétiser en senior par la suite.
Coup de chapeau à ces jeunes qu'on suivra, bien évidemment. Ricardo Baroni.
Coup de cœur, Grand Prix du Brésil de Formule 1, spectacle incroyable,
beaucoup de pluie,
avec deux Français sur le podium. Qui aurait misé de l'argent sur deux Français?
Clément Muller, je suis sûr. Il mise
souvent. Sur les Français sur le podium.
Deux Français de l'équipe Alpine sur le podium, je trouve que c'est très bien et ça fait plaisir.
Exact, c'est un beau résultat. Interlagos, merci beaucoup à tous les trois d'être venus participer à cette émission.
Merci
une semaine formidable.